You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nous avons le plaisir d'avoir dans les studios de Radio SBS professeur Pierre Cernat, qui est prof de l'histoire de la Révolution française de passage en Australie. Bienvenue à SBS.
Merci Jean-Noël Ducasse de votre invitation.
Vous êtes en Australie pour une série de conférences qui a commencé, d'après ce que je comprends, à Canberra. Mais d'abord, ce que j'aimerais vous demander, c'est de nous raconter votre parcours professionnel.
J'ai suivi un parcours tout à fait classique par rapport à la carrière académique française, donc avec des études d'histoire. Mon maître a été Michel Vauvel, qui a été le directeur scientifique de la mission qui s'est occupé d'organiser le bicentenaire. Donc j'ai fait une thèse sous sa direction sur un aristocrate révolutionnaire. Donc ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur des marges de la révolution. Et cet homme-là a même inventé le concept de démocratie représentative, il s'appelait Antonel. Puis ensuite, j'ai toujours pensé que être français, c'était aussi vouloir voyager et pas s'enfermer en France. J'ai passé plusieurs années à l'université de Catane, en Italie, en Sicile. Puis je suis revenu en France. J'ai eu un poste d'abord à Reims. Et puis ensuite, je suis arrivé à la Sorbonne et j'occupe aujourd'hui la chaire prestigieuse d'histoire de la Révolution française. Voilà.
Parlez-nous de votre séjour en Australie. Vous étiez de passage à Canberra.
Oui, l'Australie est un lieu qui compte pour l'histoire de la Révolution française. Cela peut paraître paradoxal, mais il y a une ancienne tradition d'histoire de la Révolution et nous en sommes très, très heureux en France. Et notamment, donc, depuis 1978, existe le séminaire Rudé, du nom de ce professeur britannique qui a enseigné plusieurs années à Adélaïde, et qui a introduit ou qui a développé les études révolutionnaires en Australie. Et aujourd'hui, à Canberra, le professeur Cook, à Melbourne, les professeurs McPhee, les professeurs Garriock, et à Adélaïde, John Westby, par exemple, relèvent le défi et font un travail extraordinaire et très 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 utile pour toute la communauté des historiens de la Révolution. Donc l'Australie compte beaucoup dans la carte des historiens de la Révolution.
Et comment s'est passé votre séjour à Canberra ?
Alors, le séjour a été très studieux et très sérieux parce que le séminaire a pour but de faire parler de jeunes doctorants qui travaillent dans l'ère pacifique, de les réunir tous les deux ans. Et les séries d'interventions étaient vraiment de très haute qualité, de même celles des collègues australiens, néo-zélandais, anglais ou américains ou canadiens. Donc, c'est vraiment un séminaire international. Donc, je n'ai pas eu le temps de visiter Canberra, mais depuis hier, je me rattrape à Melbourne, qui est une ville fantastique.
Et donc là, vous êtes à Melbourne et ce mardi 10 juillet, vous serez à l'Université de Melbourne pour présenter cette conférence sur le thème « The French Revolution, New Perspectives in the Context of Global History ».
Oui, je crois que, je le dis en toute sincérité, je crois qu'il n'est plus possible de faire une histoire franco-française de la Révolution. La Révolution est un événement mondial, mais pas simplement parce que nous, Français, nous avons inventé la Révolution. Ce n'est pas cela. Au contraire, le monde atlantique et le monde aussi de l'océan Indien, par exemple l'île de France ou l'île Bourbon, qui vous sont chers, cher Jean-Noël Ducasse, sont aussi impactés par la révolution, ou les révolutions, je devrais dire. Car finalement, tout commence aux États-Unis avec la guerre d'indépendance, puis après à Genève, en Irlande, dans le Brabant, dans les provinces unies. Ce serait vraiment une faute historique d'imaginer que la France a inventé à elle seule la révolution. C'est tout un monde qui est saisi par cette question des droits de l'homme, de la citoyenneté, de la souveraineté nationale, et évidemment, un thème qui vous est cher, la question de l'abolition de l'esclavage, bien évidemment, et la reconnaissance de tous les êtres humains égaux.
Et les révolutions continuent ?
Bien sûr, bien sûr. Heureusement, ce ne sont pas les historiens qui décrètent quand les révolutions sont finies ou quand les révolutions doivent commencer. Les historiens sont de simples témoins, de simples citoyens qui ont leur méthode pour expliquer à leurs concitoyens ce qui s'est passé dans le passé. Je suis tout à fait admiratif du courage, de la bravoure de nos amis tunisiens, démocrates, qui en 2011, dans ce pays qui était une vraie dictature, ont eu le courage de nous montrer, de nous rappeler ce qu'était une révolution. Les révolutions ne se font jamais par plaisir ou par goût du désordre. Elles se font quand les peuples n'en peuvent plus, quand la situation est devenue insupportable pour eux face à des pouvoirs arbitraires. Il faut encourager, il faut aider nos amis tunisiens qui sont comme dans toutes les révolutions, à un moment critique où les forces de la contre-révolution sont toujours fortes. Donc une révolution se construit selon un long processus d'émancipation de liberté.
Est-ce qu'il y a peut-être une deuxième révolution américaine en ce moment, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir ?
Alors, écoutez, c'est une question très passionnante et merci de me la poser. Il y a en ce moment, donc, s'il y a une révolution, c'est une révolution conservatrice. Ça peut exister aussi, une contre-révolution, une révolution réactionnaire. Mais en même temps, pour m'être rendu à Berkeley il y a quelques mois, j'ai pu me rendre compte que, en fait, les fondements même de la révolution américaine étaient actifs. En Californie, on m'a dit, mais les founding fathers de notre République, entre 1787 et 1789, quand se rédige la nouvelle constitution américaine, ont pensé au danger d'une dictature à Washington et nous ont donné la possibilité par les lois fédérales de chaque État de pouvoir résister. Donc en fait, le conservatisme et la politique inquiétante, à mon avis, de Trump, font revivre une des origines de la révolution américaine, c'est-à-dire cette république fédérale et la possibilité pour les simples citoyens dans les États de pouvoir résister à des mesures qui sont réellement arbitraires et peut-on dire liberticides et anti-humanitaires quand on voit la réaction stupide et rigide de Trump vis-à-vis des migrants par exemple.
Et chez vous en France, avec l'arrivée du président Emmanuel Macron en 2017 ?
Alors évidemment, donc là nous avons en fait un rejeu. D'abord parce que le candidat Emmanuel Macron a appelé son livre qu'il a publié pour son programme « Révolution ». Donc il fait explicitement référence à cela. Ensuite parce qu'il veut transformer toute la société française sur une nouvelle donne, donc une sorte de New Deal à la française. Maintenant la question est de savoir qui il est dans la Révolution française. Est-ce qu'il sera donc un nouveau député ou un nouvel homme qui va prôner une révolution ouverte, ou est-ce qu'il sera un nouveau Bonaparte ? Vous savez que la comparaison se fait déjà, puisque le président Macron joue à plein des pouvoirs que lui donne la Constitution de la Ve République, qui sont très importants. On a souvent parlé d'un monarque républicain. Ce n'est pas entièrement faux. Donc, je vous réponds en tant qu'historien, voyons et soyons prudents sur l'avis que l'on peut porter de notre président de la République.
On continue avec votre voyage en Australie. Après Melbourne, vous serez à Adélaïde mercredi 11 juillet.
Oui, tout à fait. Donc, le professeur John Westsby a eu l'immense générosité de m'inviter. Il travaille depuis des années et des années, une vingtaine d'années désormais, sur l'expédition Baudin, bien évidemment, et sur les voyages français dans le Pacifique, et donc avec La Pérouse, Bougainville, par exemple. C'est une magnifique opportunité, et puis surtout de participer au Festival of Ideas d'Adélaïde, donc, où je vais parler de mon nouveau thème de recherche, les animaux, une histoire politique des animaux et plus particulièrement sur les droits des animaux qui ont déjà été pensés pendant la Révolution française.
Vous aimez les animaux ?
En toute sincérité, je préfère les humains. Mais je veux dire par là que ce qui me rend sensible à la question des animaux, bien sûr, j'aime les animaux.
Ce rapport de l'humain avec les chiens,
voilà,
les chats.
C'est le rapport entre la frontière. Mmh. C'est la frontière entre les humains et les animaux qui m'intéresse. Je suis comme l'abbé Grégoire, un des grands révolutionnaires, ami des femmes, ami des juifs, ami des noirs, ami des animaux aussi pendant la Révolution, et qui a pensé que si la Révolution ne s'occupait pas de l'autre moitié de l'humanité ou de ces minorités, la révolution aurait raté son objectif. Donc en fait, à cette époque-là, il y a des êtres humains qu'on traite comme des animaux. Tous les personnes qui souffrent de la traite négrière pour devenir esclaves dans l'empire colonial français. Donc c'est une question qui est effectivement liée, celle de la frontière entre humanité et animalité. Et donc, en aimant les humains, bien sûr, je m'intéresse aux animaux. Parce que la question de la maltraitance animale renvoie, bien sûr, à la question de la possibilité de maltraitance des êtres humains.
Professeur Cernin, c'est votre premier voyage en Australie. Quel regard portez-vous sur ce pays qui aurait pu être française ? À l'époque.
De regard, si vous me le permettez, et vous me pardonnerez mon ignorance, je pensais trouver une autre forme d'Amérique ici, c'est dire mon ignorance et je vous prie de m'en excuser, et je vois une Angleterre moderne. Alors ça ne va peut-être pas faire plaisir à beaucoup d'Australiens, mais c'est dans le bon sens du terme. Je veux dire par là que j'ai l'impression que ce pays demeure fortement marqué, même si je connais la rivalité en rugby, par exemple, dont je suis fortement amateur entre l'équipe d'Australie et l'équipe d'Angleterre, mais je trouve que ce pays est fortement marqué par sa culture anglaise, et ce n'est pas du tout une critique, c'est un simple constat, beaucoup de noms qui rappellent l'Angleterre. Le deuxième aspect, c'est bien sûr l'extrême dynamisme de cette société que j'ai l'impression de prendre en pleine figure, en plein visage. Je vois un pays prospère, je vois un pays où la qualité de vie est tout à fait remarquable. J'imagine qu'il doit y avoir de la pauvreté aussi en Australie, des inégalités. Mais enfin, par rapport au spectacle quotidien que je vois à Paris, c'est pas du tout la même chose. Enfin, troisième chose, je ne cesse de demander à mes amis australiens, mais pourquoi vous ne devenez pas républicain, puisque finalement vous avez eu la possibilité. Mais je ne voudrais pas allumer un feu inutile.
Professeur Cernin, merci d'être venu nous rendre visite à SBS et bon séjour en Australie.
Merci, c'est moi qui vous remercie, Jean-Noël Ducasse.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.